À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, ouais.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie, c'est sur Radio Cité, 92.2. Chers amis auditrices, auditeurs de Radio Cité, bonjour. Eh bien, là, je suis à la réception d'un hôtel de Genève à côté de la gare. Je suis en face de quelqu'un que je ne connais pas et j'adore ça. J'adore ça. C'est quelqu'un qui m'a trouvé par les réseaux, qui, si semble-t-il, ben, on devrait avoir des atomes crochus, puisqu'autrement, il ne m'aurait pas demandé qu'on se voie. Et j'en ai profité de lui proposer cette interview. Alors, je vais demander à cette personne de se présenter. On y va comme ça ?
Ah bien. Alors, James Dutra, je suis neurospécialiste en stratégie de résilience. C'est-à-dire qu'en fait, j'apporte aux gens quatre outils de base pour leur apprendre à rebondir et à transformer n'importe quelle difficulté, problème, drame même, crise, en opportunité d'aller encore plus loin que s'ils n'avaient pas rencontré d'obstacles.
Ah ouais, rien que ça. Alors, qu'est-ce qui, dans ta vie, a été le déclencheur de cette approche-là ? Parce que, finalement, c'est encore une histoire de relation humaine, ça.
Ouais, donc, le déclencheur, c'est que ma vie a été un peu... Enfin, tout est assez mal parti dès le départ, parce que j'étais abandonné à peine né. Et puis ensuite, mes parents étaient adoptés par des médecins de l'hôpital, enfin, une femme médecin de l'hôpital. Et qui, ensuite, mes parents adoptifs sont morts quand j'étais adolescent, enfin bref, etc., etc., etc. Donc c'était où je résiliais, où je mourais.
D'accord, une galère, avec un avantage quand même, c'est qu'il y a de l'eau sous la galère.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc j'ai réussi à flotter, à prendre la vague, voilà, exactement, à prendre cette vague. Elle a surfé, et du coup, grâce à Boris Cyrulnik, j'ai été mis en contact avec la résilience. Et là, je me suis dit, en fait, je peux décider de ce que je vais faire avec ce qui m'est arrivé. C'est pas ce qui m'est arrivé qui va décider de ma vie, mais moi, je peux décider de ce que je vais faire avec.
Donc, dans beaucoup de cas, aujourd'hui, on parle de résilience pour tout et n'importe quoi. Dans ton cas, je crois que le Stempel, il vaut la peine d'être compris dans son juste sens, avec un bon compost, faire des beaux fruits et des beaux légumes.
Voilà, exactement. Surtout que la résilience, c'est quelque chose qui est intrinsèque à tout, à la nature, à l'univers. Chacune de nos cellules, elle est résiliente. Dès qu'elle est comprimée, contrainte comme ça, automatiquement, elle va vouloir retrouver sa situation d'équilibre de départ. Donc, c'est quelque chose d'instinctif. Et je pense que l'être humain, il a bloqué cette faculté de résilience en pensant trop, en mentalisant trop et en oubliant qu'il a déjà toutes les ressources en lui.
Dans bien des cas, on se fait sa propre thérapie en apprenant et en pratiquant son métier. Et puis pour certains, eh bien, grâce à ça, on fait le tour et puis ça devient juste un métier au service des autres. Tu en es là ou tu as encore beaucoup à apprendre à travers cette pratique ?
Non, alors moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la résilience, j'ai tout de suite mis en pratique, j'ai modélisé ensuite des personnages qui sont confrontés à des grosses situations de stress, de pression, de drame, de traumatisme et tout ça, pour voir comment ils faisaient. Et puis j'ai appliqué un petit peu ce qu'ils faisaient sur moi-même, puis ça s'est mis à marcher tellement bien que finalement j'en ai fait mon métier. J'ai créé une méthode, et puis surtout je me suis dit, j'ai pas le droit de garder ça pour moi, quoi. Je veux dire, c'est pas possible, ça.
Oui, ça aide à avaler le bonbon aussi.
Absolument. Non, puis
on se sent moins seul. Hein.
Ouais. Et puis surtout que moi, j'ai commencé à aller travailler donc, pour des orphelins des rues en Amérique du Sud. Et puis quelque part, c'est eux qui m'ont réconcilié avec mon histoire. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est une sorte de... Je vais faire pareil. J'ai envie de prolonger, de transmettre, de contribuer au destin de l'humanité, qui est quand même pas gagné d'avance.
Donc, t'as bourlingué, Amérique du Sud ?
Ah oui, j'ai pas mal bourlingué.
Raconte.
Ouf ! Alors, l'Amérique du Sud, je suis arrivé avec mon petit sac là-bas. Et puis, la première chose qu'on m'a dit, au Pérou, parce que j'étais au Pérou, on m'a dit, tout est possible, mais il n'y a rien qui est certain. Donc déjà, voilà, il fallait apprendre à rebondir. Et puis, j'ai rencontré surtout ces enfants des rues. Hein. Je ne les prenais pas plus que 12 ans parce que ça devenait un peu trop dangereux.
Tu les as rencontrés comme ça dans la rue ?
Ouais. J'allais dans la rue et je leur disais, quoi, je voyais, ils avaient quand même une vie qui n'était pas top. Et je leur dis, écoute, j'avais squatté une vieille usine avec un Anglais dont... Là-bas, on apprend. Une deuxième chose qu'on apprend aussi, c'est que si on n'est pas sûr d'aimer la réponse, il faut éviter de poser les questions. Donc ça, ça a été aussi très utile, même d'ailleurs ici. Et puis là, j'allais dans la rue et je disais aux enfants, écoute, moi en échange, je vous donne à manger gratuitement, des habits et puis des médicaments gratuits si j'avais, parce que sinon, il ne faut pas rêver, hein, faut les intéresser. Si vous venez aux ateliers qu'on a organisés dans cette ancienne usine. Et petit à petit, ils ont commencé à débarquer. Et alors, on les désarmait le matin parce que, enfin bref, c'est la rue, hein. Et puis là, moi je donnais des ateliers de maths, de base, à apprendre à calculer, à l'aide d'espagnol. Ben, je fais des arts martiaux, donc je leur donne aussi des rudiments d'arts martiaux, des choses comme ça. Et ils ont vraiment adoré. Et en fait, j'ai réalisé qu'ils m'ont beaucoup plus apporté à moi que moi j'aurais apporté à eux. Ils n'ont pas fait exprès, hein, ils étaient juste eux-mêmes, quoi. Mais leur capacité de résilience, de rebondir sur des vies... Mais moi, il y avait des fois, il se passait des drames, parce qu'il se passe à peu près un drame tous les 10 jours. Hein, et moi, je n'avais pas la case dans le cerveau pour stocker cette information. Il y avait des trucs tellement intolérables, invraisemblables, impressionnables, vraiment choquants, enfin bref, que quelquefois, j'étais là, mais je fais quoi de cette information? Et du coup, c'est moi qui ai appris avec eux comment ils font pour vivre avec ça. Et ils m'ont inspiré, quoi.
C'est dingue. Quand on y met simplement la bonne volonté, quand la volonté est vraiment bonne, et puis qu'on ne fait pas trop attention à ce qu'on va gagner avec ça, eh bien, on se rend compte que la vie, finalement, elle sait comment elle peut faire en sorte de nous rétribuer dans notre énergie, dans la façon de faire les choses, sans que pour autant le cherche. La vie, c'est mieux que nous, comment nous restituer ce dont on a besoin pour continuer à la servir, c'est ça ?
Alors, tellement, à partir du moment où... Bon, là-bas, j'ai pas eu le choix, il fallait que... De toute façon, j'y comprenais que dalle, donc il fallait vraiment que...
Attends, oui, t'avais toujours le choix.
Ouais, mais enfin...
Enfin, plus que, je pense.
Ouais, alors, tout à fait, mais je veux dire... J'étais venu avec un petit plan bien formaté, bien machin...
Bien helvète.
Bien helvète, bien suisse, exactement. Puis à ce moment, mon plan, il a volé en éclats à la première demi-heure. Forcément, je me suis fait braquer en arrivant. Donc déjà, je me suis dit, ah bah tiens, ça se passe pas comme prévu. Et puis ensuite, ça a été que ça. Sans arrêt, il y a tout... Rien ne se passe comme prévu. Sans arrêt, s'adapter, improviser, réagir... Et puis finalement, bah, du coup, exactement, on est obligé de suivre ce que la vie propose parce que finalement, c'est ce qu'on a de mieux à faire.
Ça ne te gêne pas que tu t'es fait braquer puis que je parte en éclat de rire et je
vois
que
tu... Non, non, parce que voilà, ça fait partie des souvenirs intenses de cette expérience, puis il y en a eu d'autres. Hein. Et ça, ce n'est pas le pire.
C'est fou avec le temps, hein, comme on arrive à rire de ce genre de choses.
Ah bah heureusement. Hein. Moi, c'est comme moi, j'ai fait l'armée ici en Suisse. Bon, c'est un peu démodé, mais on a vraiment galéré. Sur le moment, enfin, on avait envie de déserter toutes les demi-heures. Mais aujourd'hui, j'ai que des bons souvenirs. Donc je crois que notre cerveau, il se rappelle des bons souvenirs et pas des mauvais.
Bien, s'il se sert des mauvais souvenirs dans le cadre d'une résilience, oui.
Alors voilà, si c'est pour les transformer en futurs bons souvenirs, moi je prends.
Alors, tu me dis maintenant que tu travailles au service de la communauté, je pense également dans le monde professionnel. Tu as donc tu fais, je pense, des stages, des ateliers, des formations. Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans?
Alors là, donc, je fais soit des ateliers en entreprise, parce que je développe aussi de la culture de résilience en entreprise. Je leur apprends à créer des A-players. Hein.
Un nom français?
Alors, ça a été créé par Reed Hastings, le fondateur de Netflix, donc
Allez, tu sors-moi une périphrase.
Mais l'histoire, c'est en fait de créer, de permettre aux gens de révéler leurs talents et de faire en fait 80% du temps ce que seuls 10% arrivent à faire. Plutôt que d'avoir... Parce que les BC et D-players, c'est les gens soit qui font le minimum pour ne pas prendre de risques, pour ne pas se mettre en danger, ce qui est de la survie, on comprend. Mmh. Ensuite, il y a les C-players, c'est ceux qui, de toute façon, ils vont faire moins parce que c'est jamais de leur faute. Et puis, il y a les derniers qui vont faire moins parce que, de toute façon, c'est la faute des autres.
Ouais.
Alors, c'est pas génial pour une entreprise, enfin, c'est génial pour personne. Donc là, moi, je leur apporte les moyens de créer des A-players dans leur entreprise. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand ces personnes, justement, deviennent des A-players, ils se rendent compte que c'est des ressources intérieures et que ça fonctionne plus qu'au travail. Ils ramènent ça à la maison, avec leurs enfants, avec leurs amis, et ils deviennent des A-players partout.
Dis donc, ça calme le stress, ça aussi, quand on est dans ce profil-là.
Alors, je dirais pas que ça calme le stress, mais ça le métabolise. C'est-à-dire que le stress devient une dynamique qui ressource plutôt que d'être un frein qui limite.
Ah ben voilà, c'est une bonne nouvelle.
Ah ben, c'est
ça. Gérer le stress, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre dans la poche.
Non,
il faut apprendre. C'est un moteur. Hein, aussi.
C'est un moteur. La nature, elle n'a pas passé des millions d'années d'évolution pour nous créer un truc où elle s'est plantée quand même. Mm-hmm. Donc le stress, c'est vraiment notre système nerveux a décelé une menace et il nous envoie de l'énergie supplémentaire, parce que c'est essentiellement de l'adrénaline, hein, pour nous dire, attends, bah, tiens, je te renvoie de l'énergie, comme ça tu peux dépasser l'obstacle et du coup après te détendre et...
J'ai une image du stress positif, c'est l'animal qui est à l'affût et qui attend son beefsteak.
Bah oui.
D'un côté, il doit être hyper calme et attentif pour être là au bon moment. Et par ailleurs, il y a toute l'adrénaline et ça se voit, et pour être prêt à sauter au bon moment. C'est ça le bon stress ?
Oui, c'est ça.
Ah, excusez-moi, il y a eu un petit bruit là, ça c'est...
Non, le bon stress, c'est vraiment ça. Le bon stress, c'est une ressource, c'est une dynamique, c'est quelque chose qui vient en plus, qui développe nos capacités, nos compétences, et qui nous permet d'aller plus loin que si on n'avait pas ce stress, quoi.
Un tuyau peut-être pour nos éditrices et auditeurs. Si je me sens débordé par mon stress, c'est quoi la première chose à faire ?
À respirer. Hein. Alors moi, en plus, j'ai découvert une respiration de malade, c'est la respiration du soupir. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que quand notre corps est stressé, il a besoin de se détendre et d'oxygène, soit on bâille, soit on soupire. Et en fait, si on fait une respiration du soupir, c'est-à-dire qu'on inspire par le ventre et par le nez, et puis au moment où on arrive au truc, on inspire le reste par la bouche et par les poumons, et après on lâche tout. Ils ont fait des études, c'est 40% plus efficace que n'importe quelle respiration. Moi, je dirais, on stresse, première chose, je soupire, je respire. Je respire, je soupire.
Donc on manque pas d'air.
Exactement, il faut commencer par le début. L'oxygène, c'est le début. Pas d'oxygène, pas de rien.
Alors, dans le début, il y a une émission aujourd'hui qui s'appelle Merci la vie. Quand tu entends quelqu'un dire Merci la vie, ça résonne comment en toi ?
Eh bien, ça résonne justement. Moi, tout de suite, je vois résilience. Je vois la vie, c'est pas que sympa. Personne ne dit que c'est que sympa. Moi, vraiment, c'est ces gamins en Amérique du Sud qui avaient des vies infernales et qui étaient contents, qui riaient, qui jouaient, qui sourire tout le temps. Et là, je me dis, mais moi, je veux faire pareil. Moi, je veux faire comme vous. J'ai 100 000 fois moins de galères que vous, mais je souris moins, ça va pas du tout. Et vraiment, c'est merci la vie, c'est ça. C'est merci, merci en fait, pour la capacité, pour les possibilités que nous donne la vie, dans nos cellules et partout, hein, que nous donne la vie de pouvoir rebondir, être au-dessus, ne pas se laisser terrasser, miner par les aléas, l'adversité qui fait partie du truc, quoi.
Alors plus précisément, si on regarde dans ces dernières 24 heures, quelle est cette petite étincelle de merci de la vie où tu dis « chouette, si je n'avais pas vu ça, si je n'avais pas vécu le moment dans l'instant, je ne me serais pas rendu compte que c'était du bonheur
». J'étais avec mon fils hier, on allait visiter une usine de chocolat. Alors, lui était content. Hein. Et puis on s'est rendu compte en fait que on arrivait dans le train, c'était plein à craquer, enfin c'était peur. Du coup, on avait quand même près de 2 heures de voyage. Et puis depuis quelques temps, moi j'essaie de développer un réflexe, c'est d'aborder des inconnus dans la rue. Parce que j'ai lu quelque part que si on ose aborder des inconnus dans la rue, on peut rencontrer des gens extraordinaires. Alors ça marche pas à tous les coups, mais qu'en tout cas, si on le fait pas, bah ça marchera jamais. Et du coup, j'avais commencé à développer ça, donc j'ai commencé à aborder des gens dans le wagon, un peu à la one again, comme ça. Et il y a un moment, il y a des gens qui se sont poussés, ils nous ont fait de la place, et puis ça a créé des échanges, des conversations, et on m'a raconté même une histoire incroyable. Enfin, vraiment, du coup, ça a été une opportunité que j'aurais jamais eue si il n'y avait pas eu ce problème d'être tout seul debout, que le train était bondé à craquer et tout ça. Et là, on se dit, waouh! Merci, quoi. Merci, c'est trop bien.
Mais oui, c'est absolument génial. Tu me rappelles une anecdote, il y a très longtemps, entre Trieste et Istanbul, c'est comme ça que j'ai appris les bases, mais vraiment un peu plus que les bases même du backgammon.
Le backgammon, excellent.
C'est un jeu, mais c'est un jeu magnifique. Et justement, c'est un prétexte après à côtoyer d'autres gens qu'on ne connaît pas pour le plaisir de jouer.
Exactement.
Alors, chers amis, chers amis auditrices et auditeurs, le plaisir de jouer, le plaisir de se rencontrer, le plaisir d'échanger, eh ben, c'est ce qu'on a toujours entre nous. Je vous remercie de ces magnifiques échanges que nous avons. Et puis, quant à toi, James, je te souhaite le meilleur du monde.
Eh ben, moi aussi, et à vous aussi, et voilà. Allons-y. On est plus fort à plusieurs que tout seul.
À bientôt. Au revoir.